Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme CEPAGE, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde, dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde, respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 1, la Gironde viticole, d'hier à aujourd'hui. La France est aujourd'hui l'un des premiers pays viticoles au monde. C'est le deuxième pays producteur, juste après l'Italie, et le premier pays consommateur de vin. La Nouvelle-Aquitaine est quant à elle la première région viticole d'Europe. Mondialement connu, le vignoble bordelais, qui s'étale sur tout le département de la Gironde, compte parmi les appellations les plus connues, comme le Médoc, Pomerol, Graves, Sauternes ou Saint-Émilion. Aujourd'hui, les vins produits en Gironde fournissent 1,5% du marché mondial. Sur la rive droite de l'estuaire, entre la métropole bordelaise, le Grand Libournais et la Charente-Maritime, le territoire de la Haute-Gironde se compose de quatre communautés de communes, Blaye, l'estuaire, le Grand Cubzaguet et Latitude Nord-Gironde. Ce territoire compte 63 communes pour environ 90 000 habitants. Comme beaucoup de territoires en Gironde, la viticulture y est le premier secteur d'emploi et près des trois quarts du paysage sont recouverts de vignes. Ainsi, la culture de la vigne et la production de vin sont une composante centrale de l'identité culturelle locale. Mais depuis quand, exactement, cultive-t-on là-bas l'art du vin ? Dans son ouvrage « Histoire de la vigne et du vin en France », le géographe et historien Roger Dillon situe la naissance du vignoble bordelais aux alentours du 1er siècle. La culture de la vigne, cantonnée au climat chaud et sec du bassin méditerranéen, réussit à s'implanter dans l'actuel sud-ouest de la France grâce notamment à un nouveau cépage plus résistant au froid et à l'humidité, le Biturica. Au fil des siècles, le vignoble bordelais se développe grâce à l'essor du commerce maritime et aux échanges avec d'autres puissances importatrices de vin, l'Angleterre d'abord, puis la Hollande et le reste des pays du nord de l'Europe. L'estuaire de la Gironde joue un rôle déterminant dans le commerce du vin et donc dans la renommée internationale des vins de Bordeaux. C'est vers le XVIe siècle que l'on situe la naissance des vignobles dits de qualité.
En histoire moderne, c'est-à-dire la période essentiellement des XVIe, début XIXe siècle.
Stéphanie Lachaud, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Bordeaux-Montaigne.
On considère que c'est un moment de mise en place de la spécialisation viticole et de la naissance des vignobles dits de qualité en France. Alors la viticulture est beaucoup plus ancienne, ça on en est d'accord. En revanche, le fait qu'il y ait des productions, on va dire, identifiés à des espaces comme le vignoble de Champagne et le vin de Champagne, c'est vraiment une particularité de la période moderne et plus précisément de la période qui court des années 1650 jusque, on va dire, à la fin du XVIIIe siècle.
Si ces vignobles modernes produisent un vin qui se boit dans toute l'Europe, la pratique culturelle qui s'y déploie n'a rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. On y pratique le système de la joual, qui consiste à associer plusieurs types de cultures sur une même parcelle. On est bien loin des champs de vigne à perte de vue.
Le principe, c'est d'associer sur une même parcelle, plusieurs types de cultures. En Italie, on a régulièrement l'association de l'arbre et de la vigne, c'est-à-dire que la vigne court sur le pied de l'arbre et grimpe dans l'arbre. En Bordelais, en Aquitaine, c'est beaucoup plus rare, parce que le climat nécessite souvent que la vigne soit plus marquée par le soleil, et ce que l'arbre permet moins parce qu'il apporte aussi de l'ombrage au raisin. Donc en Bordelais, la forme de la joale, c'est surtout une vigne sur piquet, qu'on appelle des échalas, et ensuite des rangs de vignes qui sont suffisamment espacés pour permettre des cultures intercalaires. Ce sont donc en fait des cultures intercalaires vivrières qui sont destinées à l'alimentation quotidienne et assez peu à entrer dans des circuits de commercialisation ou alors à l'échelle locale. Donc ça, c'est le principe, on va dire, des joales, des rangs de vignes suffisamment espacés pour des cultures intercalaires qui ont plusieurs avantages, en fait, permettre une alimentation régulière de la famille, on va dire quasiment quotidienne, limiter l'impact aussi d'un aléa, quel qu'il soit climatique ou ensuite lié à l'invasion de ravageurs, puisque la terre permet de cultiver autre chose. La troisième vertu des joales, c'est le fait que du coup le sol est travaillé. Le sol est travaillé et il y a moins de pousses d'adventices, type chien-dent, qui fait partie aussi des problématiques de parcelles de vignes moins cultivées. Donc ce sol régulièrement travaillé, c'est sans doute, on va dire, ce qu'aujourd'hui, nous, on appelle la permaculture, mais c'est, on va dire, une manière intuitive de concilier ces différents impératifs à la fois culturels et alimentaires.
Nous l'avons bien compris. Les campagnes bordelaises, si elles produisent des vins qui s'exportent à l'international dès le XVIe siècle, n'avaient pas grand-chose à voir avec le paysage de quasi-monoculture que l'on connaît aujourd'hui. De même, la gestion des parasites, avant l'arrivée des traitements, n'avait pas grand-chose en commun avec les pratiques actuelles.
Ce qui est souvent évoqué, c'est la gestion des parasites, notamment ce qu'ils appellent les limaçons, donc limaces, escargots. La seule manière que l'on avait de le faire, c'était de les faire ramasser à la main par les femmes et les enfants. Donc, dans les journaux d'exploitation, on a des journées entières qui sont payées pour les femmes et les enfants pour ramasser ce type de... ce qu'ils appellent les limaçons. Donc, en général, c'est limaces et escargots. Ensuite, pour les maladies typiquement oïdium, choses comme ça, on n'a pas forcément d'informations. À ce moment-là, ce que l'on a comme connaissance, ce sont les pratiques préventives, c'est-à-dire effeuiller la vigne pour qu'il y ait une bonne maturation du raisin et éliminer les feuilles qui sont malades régulièrement. Encore une fois, par des travaux ponctuels et des journées de travailleurs que l'on va payer. Et quoi qu'il en soit, on n'a pas de moyens encore autres que cela pour lutter contre ce type de problématique. En fait, avant les produits chimiques, on n'a pas tellement de moyens, si ce n'est enlever les feuilles malades pour lutter contre. Et d'ailleurs, certains historiens disent que la vigne est une culture entre guillemets peuplante. Peuplante tout simplement parce qu'on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour cultiver un hectare de vigne, bien plus que pour cultiver un hectare de céréales. Donc la vigne, les espaces viticoles sont des espaces plus densément peuplés. En revanche, pour tout ce qui est grands travaux, comme la vendange, il y a de la main-d'œuvre, on va dire, étrangère qui arrive. Étrangère, c'est-à-dire qui vient d'autres régions. Par exemple, en Bordelais, on a des Saintongeais régulièrement qui viennent, ou des gens qui viennent du quart sud-ouest, donc d'autres régions.
Les échanges commerciaux vers l'Angleterre et la Hollande, notamment, modifient durablement les pratiques viticoles. L'augmentation de la demande, la fin des pénuries alimentaires et l'arrivée de nouvelles maladies bousculent les campagnes bordelaises.
La question de la mondialisation, en fait, elle est à la base de la naissance des vignobles de qualité. Il n'y aurait pas eu de vignobles de qualité à Sauternes, dans le Médoc, s'il n'y avait pas eu déjà de mondialisation dans le sens plus européen du terme pour l'époque moderne. Mais s'il n'y avait pas eu le marché hollandais, mais il n'y aurait pas eu de spécialisation viticole. Dans les années 1650, on a déjà besoin de vin blanc doux là-bas et on commence à en boire. Et au XVIIIe siècle, ça ne cesse de s'accroître.
Cette hausse de la demande sur le marché hollandais favorise la spécialisation des terres agricoles bordelaises vers la culture de la vigne. Cette augmentation de la demande rend la production de vin particulièrement attractive et rentable.
La spécialisation des espaces viticoles a rendu le foncier plus attractif et plus cher. Parce que les vins, quand ils se vendent bien et quand ils ont un marché, eh bien, sont plus intéressants à produire que le système des joales. Donc en fait, la valorisation du vin sur le marché international est un élément qui a petit à petit orienté les terres vers une plus grande spécialisation. Et dans les domaines des propriétaires nobles, qui n'ont pas du coup de crainte pour la survie alimentaire ni de crainte économique profonde en cas de mauvaise récolte, eh bien dans ces espaces-là, on a ce qu'on appelle une spécialisation en vigne unie, donc en vigne pleine, comme aujourd'hui on le voit. Donc finalement, ce qui explique ce passage, c'est l'avantage comparatif d'un point de vue économique avec la valorisation sur le marché du prix accordé à ces vins. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi le fait qu'on améliore très largement les autres moyens d'approvisionnement alimentaire. Les autres moyens d'approvisionnement alimentaire complémentaires qui font que l'impératif de production par soi-même n'est plus aussi grand. Parce que le XVIIIe siècle est quand même une époque où on échange aussi d'un point de vue alimentaire. On n'a plus de grandes périodes de famine. On a aussi eu dans les campagnes françaises de meilleurs rendements par de meilleures pratiques, une meilleure connaissance d'un certain nombre d'innovations agronomiques, un meilleur outillage, une meilleure rotation des cultures, l'introduction de nouvelles plantes comme le maïs par exemple. Donc, en fait, il y a une conjonction de facteurs favorables à cela, mais il y a aussi à l'intérieur des campagnes une amélioration importante des rendements qui s'explique par de meilleures pratiques qui sont observées et petit à petit mises en pratique. Alors, pas partout, pas tout le temps, mais ça fait qu'on a une augmentation progressive des rendements qui n'a rien à voir avec celle que l'on va observer grâce à la mécanisation. Et à la chimie, évidemment, elle est moindre, mais qui est progressive.
Les 18 et 19e siècles, parce qu'ils favorisent l'ouverture sur le monde, voient donc la région de Bordeaux se spécialiser dans la production de vin. Les vignobles grossissent, la pratique de la joual disparaît, en parallèle que le risque de famine diminue. Cette période, cruciale pour le développement des vignobles, est aussi celle de l'apparition de nouvelles maladies. C'est ce que nous raconte Christophe Terrijol, viticulteur au château des Matards sur la commune de Saint-Cyr-sur-Gironde.
Ces échanges mondiaux qui se sont faits ont vu apparaître des maladies qui n'étaient pas connues sur la vieille Europe. Des maladies qui ont été importées de zones où ces maladies-là n'avaient pas d'impact sur la plante locale. Et on a vu apparaître la première grosse invasion parasitaire et cryptogamique a été le mildiou sur les pommes de terre au 19e siècle quand elle est apparue en Irlande. Ça a été la grande famine irlandaise et ce qui a provoqué des désastres humanitaires à travers un petit champignon qui s'appelle le mildiou et qui a détruit donc les champs de pommes de terre en Irlande et qui est apparu au nord de la France dans les champs de pommes de terre et qui s'est adapté à la vigne puisqu'il a descendu sur la vigne et puis on l'a vu apparaître sur nos cépages qui étaient sensibles à cette maladie-là, le merlot, le cabernet, le sauvignon.
Si le XVIIIe siècle bouleverse profondément la viticulture, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale qui fait basculer l'ensemble de la profession dans la viticulture contemporaine. Une production massive à destination d'un marché mondial, et l'utilisation de produits de synthèse pour assurer les rendements.
Au sorti de la guerre, en 1945-50, les préoccupations du français n'étaient pas la pollution des produits, ou quel qu'il soit, c'était surtout qu'il fallait qu'ils mangent. Et il y a une mission qui a été donnée par l'Europe à cette époque-là, et c'est pour ça qu'est née la CE, la Communauté économique européenne, c'était que l'agriculture nourrisse l'Europe, les Européens et les Français. Alors, quand cette mission a été demandée aux agriculteurs, ils se sont adaptés et ils ont produit. Et ils ont fait ce qu'il fallait pour produire, pour en arriver aujourd'hui, peut-être à une surproduction, mais au moins ils ont permis à tout le monde de manger. L'agriculture dans cette période-là a répondu présente et elle a fait ce qu'il fallait, ce qui devait être fait. Alors c'est nos grands-parents qui l'ont fait, mais on continue nous à faire ce qu'on nous demande. Aujourd'hui vous nous demandez de produire différemment, mais on va s'adapter et on va le faire. Le désherbage est bien l'exemple même de ce qui nous a été demandé il y a quelques années où il fallait produire mieux, et il fallait surtout produire plus. Et avec beaucoup moins de main-d'œuvre aussi, hein, parce que c'est la période de l'exode rural. Alors qui dit exode rural dit concentration, enfin vous voyez, c'est tout le cheminement. Mais c'est une période où il y a eu une véritable révolution dans les fermes et dans l'agriculture. Et comme toute révolution, Ben on ne s'imagine pas quand ça peut s'arrêter. Et ben voilà, ça a dépassé, puisque on a produit plus, et on produit aujourd'hui plus qu'on ne le devrait ou le besoin.
C'est sûr qu'après la guerre, toute l'industrie de guerre a été transformée et est devenue au service de l'agrochimie.
Elisabeth Marcotuyot, directrice de l'Institut national de médecine agricole et médecin conseil à la Mutualité sociale agricole.
Donc avec des gros laboratoires comme Bayer, par exemple. Et on a découvert à ce moment-là des insecticides qui étaient hyper performants, qui tuaient magnifiquement bien les insectes, sans se poser la question de quel est l'impact environnemental de ces insecticides. Et il y a eu donc notamment cette grosse classe d'insecticides qu'on appelle les organochlorés, dont vous connaissez un élément qui est le DDT, qui était utilisé pour tuer les poux, qui est toujours utilisé en Afrique contre le palu, et qui était un insecticide absolument fantastique, mais qui, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une rémanence dans les sols qui était absolument monstrueuse, au point qu'actuellement, ils sont interdits, mais on en retrouve encore dans les sols, avec toute cette chaîne alimentaire qui peut être contaminée. Si vous en avez dans les sols, eh ben, vous allez en avoir dans l'herbe. L'herbe, elle va être broutée par la vache. La vache va le concentrer dans le lait. Le lait, vous allez le boire. Et donc, la femme va concentrer peut-être le lait dans son lait à elle. Et le gamin et le bébé va être alimenté. Donc, on en est dans une chaîne avec les organochlorés qui a été quand même très impactante et qui fait qu'actuellement, vous n'avez plus aucun organochloré sur le marché. Le dernier, c'était l'endosulfan qui était traitement de semences, et maintenant on utilise d'autres insecticides justement qui sont quand même beaucoup moins toxiques. L'autre grande classe d'insecticides, c'était les pyréthrinoïdes de synthèse qui existent toujours à actuellement, qui sont des dérivés synthétiques de la chrysanthème, de la pyrète de la chrysanthème, et qui ont une toxicité moindre que ceux que je vous ai cités précédemment, qui ont une toxicité moindre et qui sont aussi beaucoup moins rémanents. Donc, rémanents, c'est qui reste dans l'atmosphère, dans le sol, que les autres dont je vous ai parlé précédemment. Mais plus on essaye d'être, pareil, sécuritaire en retirant ces produits hyper dangereux et en les remplaçant par des insecticides moins dangereux, plus il y a communication, mais ça, c'est pas le même fait, c'est parce qu'il y a Internet, parce que les gens se documentent, parce qu'on nous alerte beaucoup sur l'état de la planète, plus ces produits sont mis en lumière et plus on va être attentif, alors qu'ils sont moins dangereux qu'auparavant. Mais ce n'est pas plus mal, ça nous oblige surtout à faire toujours la même chose, une évaluation pour utiliser le minimum de produits sur le maximum de cultures et avec un minimum d'impact humain sur la santé humaine et sur l'environnement. Mais voilà, moi je dirais que moins les produits sont dangereux, plus on communique dessus et plus du coup on est obligé de faire attention à ce qu'on fait.
Donc c'est pour ça qu'il y a un réajustement qui est en train de se faire et la société aujourd'hui nous demande de produire mieux avec moins de produits. Et bien, on va s'adapter, on va le faire. On va le faire, mais avec moins de main-d'œuvre. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure du travail sous le pied de vigne, du cavaillon, ce qu'on appelle le cavaillon, c'était un travail qui demandait beaucoup de personnes. C'était un travail assez fastidieux, qui a été remplacé par la chimie pour obtenir un résultat avec moins de pénibilité et un bon résultat, puisque ça a permis de produire mieux. Et plus.
Nous l'avons bien compris, le développement de l'agrochimie découle d'une volonté de reconvertir l'industrie de guerre. Ce qu'on appelle alors la viticulture conventionnelle va pouvoir utiliser de nombreux produits, dont la toxicité ne pourra être démontrée que plusieurs décennies plus tard. Aujourd'hui, beaucoup de ces produits ont été retirés de la commercialisation, mais continuent d'avoir un impact sur l'environnement et la santé. Ceux qui sont toujours utilisés par les exploitants, car autorisés par les autorités sanitaires, font l'objet de nombreuses controverses. En dehors des labels, la pratique dite conventionnelle, ou traditionnelle selon qui l'emploie, a également évolué et n'a plus grand-chose à voir avec la pratique d'après-guerre.
Du coup, quand moi je suis revenu il y a à peu près 10 ans, on était principalement en culture raisonnée.
Julien Bonneau, viticulteur bio et biodynamie au château du Haut-Grelot.
Ce qui était déjà mis en place depuis pas mal d'années, c'était la partie raisonnée aux petites doses, c'est-à-dire déjà une sensibilité à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc en tous les cas, c'est d'avoir une compréhension maladie cryptogamique de manière très fine et intervenir lorsqu'il était nécessaire et avec la dose vraiment nécessaire. Voilà. Donc c'était déjà une réduction, c'est déjà une volonté d'aller dans le sens un peu plus écoute du vignoble.
Et je vous dis aujourd'hui, de toute façon, enfin, je pense que là-dessus tout le monde est d'accord.
Marie Benoît, viticultrice installée depuis 2015 sous l'appellation Côte de Bourg, est membre de l'association des jeunes vignerons de la CAF coopérative des vignerons de Tutiac.
Il n'y a plus grand monde aujourd'hui, à mon avis, très très peu de viticulteurs qui traitent parce que systématiquement on doit traiter quoi. Ça n'existe plus ça. Et ça, qu'on soit bio ou conventionnel, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Quoi. Avant, on traitait parce que ça faisait partie de... C'était comme ça, quoi. C'était sécurisé au maximum. Et donc, du coup, ben, quand c'était 10 jours, 10e jour, tout le monde traitait. Et puis, au moins, on était tranquille, il n'y avait plus de problème. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous plus responsables. Et puis, l'écologie, on n'en parlait pas. Alors que maintenant, c'est un énorme sujet. Donc, je veux dire, et même pour nous, les jeunes, en plus, je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut faire, faut être vigilant sur ce qu'on fait et sur ce qu'on pratique. Et qu'il y a eu une génération, effectivement, plusieurs d'ailleurs, même, qui n'était pas sensibilisée à ça non plus, quoi. Hein. Voilà.
Je suis rentré sur la propriété en 85. En 89, j'ai fait 3 traitements anti-mildiou et à petite dose. Et quand j'en parlais avec mes voisins, j'étais un peu traité de fou, alors ça m'allait très bien. Parce que normalement, on traite plus régulièrement que ça. Tu as pris énormément de risques, le gamin. Cette période-là, c'était une année exceptionnelle où il n'y a pas eu de maladie, où tout était très bien. Et pourquoi utiliser des produits? C'était ma réflexion. Pourquoi utiliser des produits alors qu'il n'y en a pas besoin? Aujourd'hui, si ça se reproduisait, je ne sais même pas si j'en ferais 3 traitements avec toutes les connaissances qu'on a acquises.
Si les pratiques évoluent, parfois dans un bousculement, parfois sans même qu'on puisse s'en rendre compte, le futur de la viticulture reste encore à dessiner.
C'est un moment important qui est en train de se jouer, puisqu'on est en train de nous dire vous n'allez plus employer de produits chimiques pour désherber. Mais il va falloir utiliser des méthodes qui vont être beaucoup moins consommatrices de main-d'œuvre. Et il n'est pas question de revenir à des méthodes ancestrales parce qu'on n'a plus le personnel pour le faire. Donc là, on a une période charnière qui est en train de voir le jour et on va certainement avoir une robotisation importante dans les vignes pour justement pallier ce manque de main-d'œuvre pour travailler les sols. Donc là l'homme va s'adapter une fois de plus, l'agriculteur va s'adapter et il va faire entrer dans les vignes des robots. Ça va être l'avenir proche.
Si l'avenir proche mobilisera peut-être de nouveaux outils pour aider les viticulteurs à faire face aux nouvelles exigences de la société, la robotisation n'est peut-être qu'une étape vers un réenchantement plus général des professions agricoles. On écoute Karine Magot et Karine Galante, salariées au sein de la coopérative des vignerons de Buzet, coopérative engagée au sein du programme régional Vitirève, qui cherche à inventer de nouvelles pratiques viticoles.
Donc moi, je pense que quand on parle de la robotisation, ça peut être une étape qui peut permettre de faire passer, en effet, cette étape de transition, parce qu'en effet, on n'a pas forcément la main-d'œuvre, on n'a pas forcément... Mais en tout cas, ce n'est pas la fin en soi. La fin en soi, ça serait d'aller sur un vignoble résilient qui arrive à être, plus tolérant avec les champignons, etc., et à mieux se défendre, ou à ce qu'on soit juste là pour l'accompagner, pour qu'il arrive à se défendre sans qu'on ait à utiliser des produits phytosanitaires. Mais oui. Ça, c'est peut-être une utopie.
Sans doute par des vignobles plus petits et avec une main-d'œuvre quand même un petit peu plus intense qu'aujourd'hui, enfin un peu plus importante qu'aujourd'hui. Donc, un réenchantement quelque part aussi de la profession. Ça, on a du mal aujourd'hui à trouver des saisonniers pour travailler dans la vigne, quoi. Donc, il faut peut-être aussi réenchanter la profession de viticulteur et la mettre en avant. Enfin, voilà, c'est pas forcément évident. Un changement de paradigme, quoi.
Dans l'épisode suivant, nous irons à la rencontre des viticulteurs et des opérateurs viticoles pour comprendre notamment comment s'exerce aujourd'hui cette profession et à quoi ressemble une année dans les vignes. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire, ainsi que sur la chaîne de La Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcasts.